Il est 19h.
Quand un petit Palestinien prend une gifle, on a mal à la joue. Quand il tire un caillou pour se défendre, on tire un caillou avec lui.
Vous vous rendez compte que votre plateau est toujours surreprésenté par la gauche?
On veut bien être gentil, mais pas con.
La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les briques rouges.
Mais n'y pas, jouez pas au con avec lui.
On est trop gentil.
Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence.
On est gentil, hein? On est toujours gentil.
C'est tout ce capitalisme, n'y pas.
Arrête-toi.
Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin. Voilà. Le vin qui dit vin, dit pot de vin. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric.
Je vote pas pour les capitalistes, hein. Quoi, je suis ouvrier.
On est trop gentil.
Quel bruit moche. En effet, micro qui bouge.
Lundi 19h, on passe au rouge sur Radio Campus Lille en modulation de fréquence libre. C'est le 106,6, campuslille.com et la radio numérique terrestre. L'émission qui annonce la couleur est aujourd'hui exceptionnellement réalisée par Quentin, notre ancien chroniqueur informatique du système d'exploitation. Salut Quentin.
Salut.
Mais il y a aussi Jean-Jacques qui me disait juste avant l'émission qu'il pensait que c'est Israël et les États-Unis qui vont libérer le peuple iranien, Jean-Jacques.
Mais on n'est pas obligé de rapporter tout ce que je dis comme connerie après, avec 5 grammes dans le sang. Merci. Avec Fabienne. Fabienne qui, voilà, tout ce que je voulais dire. Ah là, t'es cassé, hein, t'es cassé.
Oh, feignant, bah.
Bah, c'est pas mieux que Seb, hein, totalement déjanté, avec la table de mixage dont il se sert comme d'une table de navigation d'un avion de l'US Air Force.
Oh, bon, c'est bien, non?
C'est pas vrai. On nous dit que 30% des emplois pourraient être remplacés par des IA, de l'intelligence artificielle. On a le patron d'Amazon qui a envoyé un message à ses équipes il y a 5 jours pour leur dire qu'ils vont être remplacés par des IA et qu'ils doivent accepter cet outil. Mais d'un autre côté, on a aussi une étude d'IBM en début d'année qui dit que seulement un quart des projets d'IA rapportent vraiment de l'argent. Donc les trois quarts qui restent, c'est de l'argent gaspillé. Alors, est-ce que l'IA est une menace pour les travailleurs? On est aujourd'hui avec Camille Dupont de Solidaire Informatique. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Et vous êtes donc du syndicat Solidaire, spécialisé dans l'informatique. Mais dites-nous, est-ce que dans vos activités syndicales, vous utilisez parfois des IA pour défendre des salariés?
Alors, pas encore. S'il y a des gens qui le font, c'est au niveau individuel, mais en tout cas, au niveau du syndicat, on n'a pas de politique de défendre les gens à coup de ChatGPT, non.
Alors, on a une autre syndicaliste, mais ce n'est pas notre invitée, c'est notre commentatrice, c'est Fabienne. Mais toi aussi, tu es syndicaliste et toi, tu l'utilises des fois, l'IA?
Tout à fait, pour chercher des pistes pour défendre les travailleurs, pour voir où chercher au niveau des lois et quels sont les comptes rendus judiciaires qui peuvent contribuer à solidifier les dossiers.
Mais est-ce que vous vous fiez dans votre syndicat, la CGT, à l'IA?
On vérifie systématiquement toutes les informations, bien sûr.
Mais avant ça, qu'avons-nous à déclarer, Fabienne?
Ils nous ont menti en Irak, ils nous ont menti en Libye. Mais pourquoi les États-Unis nous diraient-ils aujourd'hui la vérité? Pourquoi le... On le voit, une petite anecdote, un petit discours de Trump, une petite phrase de Trump ce week-end. Pourquoi le changement de régime ne serait-il pas d'aujourd'hui, aujourd'hui d'actualité en Iran? Et on se retrouve dans des situations où en fait l'objectif ça va être d'aller piller les matières premières et surtout d'ouvrir un chemin vers la Chine pour mieux affaiblir les peuples et pour mieux les écraser au profit d'une minorité.
Et toi Jean-Jacques, tu as déclaré?
Toujours sur Trump, hein, et puis la guerre en Iran. De la même manière que Trump est parti faire la guerre en Iran pour ne pas laisser la vedette à Netanyahou, et ben Retailleau, ouais, c'est le modèle français. Hein.
Retailleau, Raptailleau, on l'appelle maintenant.
Raptailleau. Se met sur les pas de Trump. Il lance des rafles aux migrants. Vous aviez suivi ça, c'était mercredi 18 et jeudi 19 juin. Il y a quelques jours, dans les gares, 4000 policiers déployés. Aux États-Unis, au début du mois, ça s'est fini en émeute, avec des tas de bagnoles de flics qui brûlaient et la garde nationale déployée en Californie.
Et un shérif qui menace de mort les manifestants. Ça, ils sont très forts.
Et de la même manière que Trump a fait sa campagne sur les migrants qui mangeaient les gentils toutous à leur mémaître, Retailleau fait sa campagne pour 2027 sur l'idée de la cinquième colonne, partout, cachée, chez nous, près de nos foyers. C'est d'ailleurs l'objet de toutes ces tensions avec l'Algérie, hein, qu'il a mis en œuvre depuis qu'il est arrivé. C'est aussi cette aubaine que lui a offert Darmanin, qui avait commandé un rapport sur les frères musulmans. Demain, quand les fachos, qu'ils soient du RN ou Retailleau, iront défoncer les quartiers populaires racisés, bah, le narratif, comme on dit, sera tout trouvé. Ce sont des sauvages, des traîtres, des infiltrés. Et toi, Seb, que veux-tu déclarer ?
Alors, vous l'avez entendu, mes deux confrères ne savent que dire du mal, finalement. Alors, moi, je vais dire du bien d'un médecin qui s'appelle Jean-David Zetoun, et qu'on a entendu, il était sur le même plateau que le député fasciste Chenu. C'était sur la chaîne parlementaire, il y a quelques jours, et on n'entendra pas Chenu, rassurez-vous, mais on entend, lui, ce médecin-là, Zetoun, et voilà comment il parle.
La majorité des homicides, qui sont à peu près autour de 1000 par an actuellement, sont commis par des Français contre des Français. Et quand on regarde l'histoire de France, les homicides ont baissé depuis la fin du Moyen-Âge à peu près, de ce qu'on peut à peu près compter. Et ils ont même baissé depuis les années 90, ils ont été divisés par 2 ou 2,5 selon les années. Et les homicides en France ont baissé quand l'immigration a augmenté. Pourtant, souvent, les leaders du Rassemblement national font un lien entre la violence et l'immigration ou le taux d'étrangers. Et donc, je me demande pourquoi la proposition politique est systématiquement biaisée envers une cause qui est fausse.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
Alors, dans quelques instants, nous allons passer cette émission à discuter avec Camille Dupont de Solidaire Informatique. Mais avant ça, nous allons entendre un extrait de la conférence donnée à LM. Ça s'appelle LM La Rouge. C'est organisé par les communistes d'LM, le PCF d'LM, pour être précis. C'était quand, cette conférence, Jean-Jacques ?
C'était le 22 mars. C'est une rencontre qui a lieu tous les ans. Cette fois-ci, le thème, donc c'était un des thèmes, c'était l'intelligence artificielle et le travail. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on veut développer aujourd'hui. Il y avait pas mal de beau monde. Anne Bouvreau, qui est Madame IA en France, hein, qui bosse avec Macron. Bon. Pour invité par des cocos. Alexandre Basquin, lui, est sénateur du Parti communiste. Il y avait Anaïs Jaoud qui écrit des bouquins là-dessus. Et Guillermo Koslowski, un philosophe du travail très intéressant qu'on va entendre.
C'était une conférence que tu as animée, Jean-Jacques,
en
il y a quelques temps.
J'ai constaté quand on a travaillé, notamment on a fait un long travail avec deux infirmières sur ce que ça modifiait concrètement pour elles dans un hôpital. Toutes sortes de services qui avaient été plus ou moins informatisés. Donc, ce n'était pas encore des histoires de style ChatGPT, etc. Donc, pas encore des algorithmes auto-apprenants, mais tout de même des algorithmes. Assez vite, ce qu'elle disait, c'est ça nous rend plus idiots. Ça nous rend plus idiots parce que, de fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en général un DRH ou simplement un directeur de service qui venait, qui listait un certain nombre de tâches. Il disait, ce qui fait une infirmière, c'est cette liste de tâches-là. Et le reste n'existait pas. Et ce qu'il pensait déjà avant, donc c'est pas une grande différence, sauf qu'avant, il pensait ça, mais il n'y avait aucun outil assez puissant qui pour aller contrôler ça. C'est-à-dire que les chefs de service ou les médecins pensaient que les infirmières, elles faisaient juste un boulot de base que n'importe qui pourrait faire parce qu'il n'y avait aucun savoir formalisable ou formalisé qui entrait en compte, etc. Donc, ce qu'elles faisaient, bon, grosso modo, n'importe qui pouvait le faire et c'était juste une question d'un peu de bonne volonté, etc. Mais ils n'allaient pas vérifier. Parce que c'était un travail sous-valorisé, parce que ça ne les intéressait pas, parce qu'ils avaient autre chose à faire dans la vie. Donc du coup, les infirmières s'est formées entre elles, et il y avait tout un savoir qui allait largement au-delà qui s'est développé. Avec des outils de plus en plus informatisés, elles s'est retrouvées à faire ce qu'elles appelaient faire les rouges. Donc faire les rouges, c'est un langage qu'elles avaient développé pour dire Tout d'un coup, la machine envoyait des alertes qui se matérialisaient par un point rouge sur un écran. Elle disait, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et du coup, ce qu'elle disait, c'est que ça les... non seulement ça les rendait idiots, ça faisait perdre tout un savoir et ça faisait perdre l'attention qu'elle pouvait avoir. Et donc, elle donnait des exemples très concrets. Il y a quelques exemplaires, là, sinon vous pouvez trouver en ligne le travail qu'on a fait avec elle, où elle disait, bah, tout d'un coup, heureusement, des fois, on regardait parce que la machine s'est trompée, par exemple. Parce que ce n'est pas si simple que ça, le travail d'une infirmière. Parce que le travail d'une infirmière, c'est aussi, par exemple, quand on se retrouve à l'arrivée des urgences et qu'il faut décider qui passe en premier, pouvoir discuter avec la personne et extraire des informations ou produire des informations avec les patients ou des choses comme ça. Donc, en ce sens-là, je crois que dans la manière dont elle existe, l'intelligence artificielle, elle nous rend plutôt plus idiots. Et d'ailleurs, si on voit les tâches, si on voit les évolutions que moi j'ai constatées en n'étant pas du tout sociologue, donc peut-être pas du tout quelque chose d'exhaustif, ce qu'on voit, c'est plutôt que l'effet de la machine, ce n'est pas tant de remplacer les humains, mais c'est mettre des humains à des places subalternes. C'est-à-dire remplacer une infirmière par une aide-soignante, c'est demander à quelqu'un qui est traducteur d'aller vérifier une traduction qui a été faite par une machine, c'est, je travaillais par exemple avec des archivistes, c'est trouver une nouvelle catégorie des sous-archivistes. Donc ils sont des gens qui ne décident plus du sens que ça peut avoir l'archive et comment on va les classer, etc., mais qui vont simplement mettre ça dans la machine, les scanner, etc. Donc l'apparition, enfin, ou ce qu'on connaît tous parce qu'on le voit, dans les centres Amazon, par exemple, des machines qui disent, ben voilà, vous allez chercher dans tel tiroir, dans tel truc, etc., et puis après tel autre, et qui vous contrôle, etc. Donc, si je dois répondre par concrètement ce qui existe aujourd'hui, c'est plutôt, oui, il faut accepter que ce que la machine est en train de prendre, c'est les endroits où, justement, il y a de l'intelligence, où, justement, il y a quelque chose à décider, etc., et de faire plutôt des gens de subalternes. Donc, il y a une sorte d'hybridation, mais une hybridation, on est plutôt perdant dans la manière dont ça se joue, pour le moment, en tout cas.
C'était notre premier extrait de cette conférence donnée pour LM Larouge, avec Guillermo Koslowski.
Alors, on parlait d'hybridation dans l'extrait, et moi je voulais vous parler d'un petit concept qui est utilisé pas mal dans le milieu journalistique et dans tous ces milieux qui parlent de l'application de l'intelligence artificielle ou des automatisations dans le travail des personnes. C'est le principe des centaures et des centaures inversés. Donc vous avez l'image du centaure, la belle personne avec mi-homme, mi-cheval, qui court à travers la plaine, les cheveux au vent.
Dans la mythologie, les centaures sont des êtres extrêmement brutaux et dangereux. Hein.
Brutaux et dangereux, mais aussi symbole de sagesse, bref.
Tout à fait, c'est des instructeurs, c'est des profs.
Exactement. Et du coup, cette image, donc, c'est l'image de la personne augmentée par l'IA. Donc ça va être un ingénieur qui va être expert d'un domaine, mais qui va se servir d'une IA pour acquérir une expérience plus grande. Ça va être le technicien qui ne va pas avoir besoin d'aller chercher dans le manuel de 800 pages pour trouver la réponse au problème qu'il a devant ses yeux, mais qui va pouvoir dicter son problème à une machine qui va lui permettre de le résoudre très vite. Donc il y a ce côté homme augmenté. Par contre, il y a aussi l'image du centaure inversé, le corps d'humain et la tête de cheval. Et là, par contre, c'est une image beaucoup plus sombre, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être des acteurs, c'est-à-dire qu'on va les utiliser comme, entre guillemets, des robots humains, parce que, bah, par exemple, la machine ne parvient pas à arriver à la finesse. Donc typiquement, sur des préparations de commandes Amazon, on va commencer à robotiser certaines préparations de commandes, mais il y aura quand même plein de personnes qui vont travailler avec leurs mains, qui vont avoir une instruction sur un bracelet de commandes, et qui vont passer leur journée à répondre aux commandes de la machine. Il y a plein d'exemples comme ça. L'ubérisation, c'est un peu ça. C'est Uber qui va te dire où est-ce que tu vas aller. C'est pas toi qui décides de où tu vas. Et une autre image un peu sombre de ces centaures inversés, des gens qui sont dictés par des IA, c'est le contrôle du travail de quelqu'un d'autre. On reparlera peut-être un peu des traducteurs, mais il y a aussi ce côté où une machine va générer un code informatique et le travail de l'humain, ça va être de vérifier que la machine ne s'est pas trompée. Sauf que maintenir de l'attention, ou même par exemple on parlait de taxi, bah le conducteur, la personne est dans le taxi non pas pour le conduire, mais pour empêcher que le taxi finisse dans un mur. Et en fait, la grosse difficulté pour les humains, une chose à laquelle ils sont très peu doués, c'est de maintenir une attention pendant une très longue période de temps, surveiller, et
comme
déceler...
Donald Trump.
comme Donald Trump.
Pas plus de 20 secondes.
Pas plus de 20 secondes d'attention. Mais aussi essayer de détecter des espèces de tout petits signaux qui montrent que la machine est en train de faire n'importe quoi et de les corriger très très rapidement. Ça, c'est des choses où on est très peu doué. On va me demander 8 heures de m'être assis sur une chaise et de dire, pointer le moment où la machine s'est trompée. Et donc, du coup, on peut avoir un peu cette image où il y a des situations dans lesquelles on va être sur des centaures. On va augmenter la capacité de travail de la personne avec l'intelligence artificielle ou l'automatisation et des images dans lesquelles on va être en centaure inversé. Et donc, du coup, ça va plutôt être une vision négative du travail. Après...
Et oui, oui. Alors, à ce titre, j'ai un petit exemple personnel, parce que j'ai rencontré il y a quelques semaines quelqu'un qui était avant traductrice, et qui était traductrice indépendante, qui travaillait d'ailleurs pour des collectivités territoriales, et qui... mais son travail, en fait, s'est considérablement amoindri, puisque ses clients lui ont dit, écoutez, vous comprenez bien que maintenant, bah, l'IA fait une grande partie de votre travail, maintenant, on va vous demander simplement de corriger la traduction qui a déjà été réalisée par l'IA, mais vous comprenez bien qu'on va vous payer beaucoup moins. Et cette personne me disait qu'en dehors déjà du manque à gagner terrible dans lequel elle se retrouvait face à cette situation, il y avait aussi en fait la dégradation réelle de ses conditions de travail, puisque son travail de correction d'une IA est très très différent de celle de corriger un être humain, dans lequel il y a une vraie logique avec l'IA. Vous pouvez partir là dans des difficultés de traduction qui vont absolument dans tous les sens. On perd une certaine logique et on dégrade les conditions de travail.
C'est ce que disait Guillermo Koslowski hein, sur ces infirmières qui perdent en qualité de travail. Camille, vous dites, si on vous demande si le progrès technique se fait contre les ouvriers, est-ce que vous allez répondre par l'affirmative ?
Le progrès technique, historiquement, plutôt oui. Plutôt oui, hein, malheureusement, c'est un espèce d'euphémisme, mais il y a eu des progrès qui ont permis de diminuer la pénibilité de certaines tâches. Hein, on l'a vu, par exemple, utiliser un marteau-piqueur plutôt qu'une pelle à longueur de journée, utiliser une pelleteuse plutôt qu'un marteau-piqueur. On a globalement, dans le progrès technique, un espèce de, parfois, diminution de la pénibilité. Cependant, c'est pas fait pour. C'est fait pour diminuer le coût du travail, c'est fait pour augmenter la rentabilité du travailleur. C'est pas fait, le progrès technique, malheureusement, tel qu'il est fait dans notre système actuel, pour diminuer la pénibilité et aider les ouvriers.
Oui, parce que ça pourrait augmenter la productivité du travail et non pas du capital et nous soulager de ce qu'il y a de plus pénible.
C'est ça. Aujourd'hui, c'est plutôt coût de chance. Pardon.
Ça pourrait permettre de réduire le temps de travail parce que, en fait, l'ouvrier produirait plus en moins d'heures.
Ça pourrait tout à fait, mais malheureusement, aujourd'hui, les fois où ça a été utilisé pour le profit des ouvriers, ça a plutôt été un effet de bord indirect non voulu par l'employeur. En général, quand une entreprise va chercher à déployer un nouveau moyen technologique ou une nouvelle IA, hein, pour le sujet d'aujourd'hui, c'est pas fait pour améliorer le travail des employés, mais uniquement la rentabilité de ce travail. On voyait bien avec l'exemple des infirmières. Il y a beaucoup de travail des infirmières qui est pénible, par exemple, soulever les patients, les retourner, c'est quelque chose qui pourrait être automatisé. En revanche, comme ça a été décrit par Guillermo Koslowski, c'est vraiment pour diminuer le coût des infirmières et avoir passé d'infirmière à être soignant, donc avoir des personnes qui sont payées moins cher pour le même travail. C'est uniquement pour ça que c'est déployé aujourd'hui.
Oui, mais on l'a vu au 19e siècle, en fait, où il y a eu une amélioration des conditions de travail au fur et à mesure dans les usines. Au début, ça s'est joué contre les ouvriers, mais ça, peu à peu, ça a permis, grâce à des combats, de gagner des choses en termes de droits du travail, en termes de conditions de travail. Et voilà, c'est le début, c'est le combat classe contre classe, les ouvriers contre les propriétaires des usines. Mais à la fin, en fait, ce qui apparaît au début comme jouant contre l'ouvrier va en fait jouer en sa faveur, puisqu'en fait, il travaillera moins.
Pas tout à fait. Si on voit, par exemple, là, on est tout à côté de Roubaix. Et à Roubaix, il y avait un gros travail du textile qui a été fait. Ce qui fait que les conditions de travail des ouvriers ont été améliorées, ce n'est pas l'apparition des métiers jacquard ou l'apparition de nouvelles machines qui permettent de tisser plus en moins de temps. C'est parce qu'il y a eu du combat social, parce qu'il y a eu des luttes, que les conditions se sont améliorées, mais les machines sont arrivées et n'ont pas amélioré en soi les conditions de travail des ouvriers concernés.
Vous êtes sans doute d'accord d'ailleurs.
Oui, en effet. C'est bien la lutte qui compte.
C'est ça qui compte et c'est ça qui fait du résultat.
Mais c'est les machines qui ont permis cette lutte.
Pas forcément. Il y avait toujours. Ça fait des années qu'on a du progrès technique. Ça fait 200 ans qu'on a du progrès technique. La réduction du temps de travail aurait pu être faite avant l'apparition des métiers jacquard, par exemple à Roubaix, et on aurait eu des ouvriers qui auraient été contents, moins travail avec du travail manuel sans machine pour autant.
Et si on revient à l'actualité, est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà des suppressions d'emplois ou des modifications profondes d'emplois, des exemples actuels qui vous sont remontés à Solidaire?
Alors à Solidaire, on a créé justement la commission IA il y a un an maintenant, deux ans, quelque chose comme ça, à cause en fait d'un plan de licenciement qui est le plan de licenciement d'Onclusive. Donc Onclusive, c'est le premier plan de licenciement en France dû à l'intelligence artificielle.
C'est dans quelle boîte?
C'est dans une boîte qui fait de la veille de presse. Donc veille de presse, on lit les articles de journaux et vous avez un client qui dit « bah moi je veux tout ce qui parle de ma boîte, vous me l'envoyez tous les matins ». Donc c'est vraiment lire du journaux et traiter les articles. Donc ça c'est quelque chose qui a été... Il y a eu un plan de licenciement pour automatiser ça. Le problème, c'est que, comme beaucoup de projets d'automatisation, on ne sait pas trop ce qui est lié à l'automatisation de ce qui est simplement délocalisé à l'étranger. Hein. C'est vraiment quelque chose qui a été fait dans ce plan de licenciement. Il y a eu à peu près 100 emplois qui sont partis à Madagascar. Donc c'est très compliqué de dire est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui remplace ou est-ce que c'est une excuse utilisée par le patron pour faire un espèce de buzz, en fait, et simplement partir... partir avec des personnes sous-payées.
Oui, je peux faire une pub, mais faire une délocalisation à l'ancienne, quoi.
Et ben c'est ça. Souvent maintenant, les personnes qui parlent en fait de suppression d'emplois due à l'IA, ce sont les patrons de l'intelligence artificielle. En fait, c'est un argument marketing. Mmh. C'est-à-dire que vous allez avoir Sam Altman, le PDG d'OpenAI, donc qui fait ChatGPT, qui va venir et dire « bah regardez, ma nouvelle IA, elle est tellement forte qu'elle va supprimer 300 000 emplois, il faut l'acheter parce qu'elle est très efficace ». C'est quelque chose qui est dit régulièrement. Ils utilisent l'argument de la suppression d'emplois pour générer une espèce de hype de marketing autour de leurs produits. Pour autant, c'est pas pour autant qu'il y a eu tant d'emplois qui ont été supprimés. Il y en a eu dans des domaines très précis, notamment la génération de contenu, la traduction, etc. Mais il faut bien faire attention entre ce qui est généré par le patronat comme peur de ce qui est réellement impacté sur le marché du travail. Aujourd'hui, on a surtout de la suppression de certaines tâches, de la suppression de métiers, et surtout de l'augmentation de la pénibilité qui est liée à l'intelligence artificielle, plus que de vraiment de la suppression d'emplois et l'augmentation du chômage lié à ce développement.
Dans quelques instants, on continue avec Camille Dupont de Solidaire Informatique. On continue de discuter de l'IA et de l'emploi sur Radio Campus.
We got it. Stomping ground is kind of funny. You gotta break your back and make a little money on your own. Do this, shut up, pipe down. The work's hard in a working man's town. We got a problem here, they find it funny. Cause most of us have never heard of milk and honey. Prices go up, wages go down. That's how it works in a working man's town. I said the work's hard in a working man's town. You work your fingers to the bone, but it's never enough. You count your pennies in a jar when the going gets tough. All work and no play makes Jack an angry boy, and they kick you when you're down. In a working man's town. By the seashore until you took her fucking house and now she's done no more. Bedsit kicked out, two up, two down. That's how it works in a working man's town. You got another job to make ends meet, but in a month you could be living on the street, sinking in debt and you might drown. That's how it works in a working man's town. I said the work's hard in a working man's town. You work your fingers to the bone, but it's never enough. You count your pennies in a jar when the going gets tough. All work and no play makes Jack an angry boy, and they kick you when you're down. In a working man's town. What's our destiny?
Kid Capici, Working Man's Town.
Vous êtes à l'écoute de Radio Campus sur le 106,6.
Quentin, c'est toi qui as réalisé cette émission et donc choisi ce titre, pourquoi ?
Alors, mon amour récent du punk, non, ça parle surtout de lutte des classes.
C'est du punk gentil. Hein,
c'est du punk gentil. Alors, il y a la même, mais en non-acoustique, je voulais rester soft. Mais oui, voilà, c'était une musique qui parle principalement de la lutte des classes et Kid Capici, un très bon groupe parmi les nombreux groupes qui parlent de lutte des classes dans leur musique en Angleterre.
Deuxième extrait de la conférence donnée à LM Larouge autour de l'intelligence artificielle.
Est-ce qu'on peut dire que finalement ces outils... nouveaux outils informationnels vont aggraver une situation d'exploitation salariale, finalement?
Bon, déjà, je voudrais casser le mythe de l'intelligence artificielle, si vous pouvez me permettre. Elle est tout sauf intelligente, hein. Elle est alimentée de nos intelligences humaines collectives. Et je veux vraiment qu'on puisse le dire, parce que c'est un fantasme de croire que l'intelligence artificielle va l'emporter sur l'homme. Il faut démystifier ça.
L'intelligence artificielle ne va pas créer la théorie d'Einstein, une nouvelle théorie.
Exactement. Donc il faut vraiment qu'on soit très, très serein par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas des points de vigilance. Parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, non pas l'intelligence artificielle, mais qui détient l'intelligence artificielle. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est celui-là. C'est d'un côté les géants des tech, les big tech aux États-Unis, OpenAI. Donc ChatGPT qui a été lancé en novembre 2022. On voit déjà comment il est infusé dans nos sociétés modernes. Google, Alphabet, Meta, et j'en passe. Et de l'autre côté, c'est la Chine, un grand monstre aussi, avec DeepSeek. Donc, l'intelligence artificielle est le bras armé du capitalisme d'un côté, et l'intelligence artificielle est le bras armé du Parti communiste chinois de l'autre, de manière très idéologique. Et nous, en Europe, bon, on est un peu... Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier qui détient l'intelligence artificielle, et du coup... Pourquoi faire ? Et il ne me semble pas qu'on soit dans un monde investi du bonheur commun et du grand partage. On est plus dans un monde capitaliste, à la recherche du profit permanent. Et effectivement, alors que l'intelligence artificielle pourrait être une véritable promesse d'émancipation, si nous n'y prenons pas garde collectivement, ça peut vite devenir un risque d'aliénation. Et c'est là où j'en appelle à la vigilance collective. Et c'est là où il faut être extrêmement prudent. Alors effectivement, on a des chiffres déjà concernant le travail, en lui-même donc. Mon voisin en a déjà très bien parlé. Selon l'OCDE, ça va bouleverser les modes de travail, les modes de production à l'avenir. Selon l'Organisation internationale du travail, environ dans les emplois très peu qualifiés, l'intelligence artificielle pourrait prendre environ 80% des tâches qui seraient réalisées par des bots, c'est-à-dire des logiciels de tâches automatisées. Et il y a d'autres études qui nous montrent effectivement aussi que ça pourrait être de futurs managers, prendre la place de management. C'est intéressant d'être vigilant aussi sur les politiques culturelles, les professions intellectuelles. Donc voilà, il faut qu'on soit armé contre ça. Mais pour autant, il y a des points de garde-fou. Je parle toujours en matière de travail. Il y a un arrêt du tribunal de Nanterre qui est paru ici le 14 février, qui a obligé une entreprise à mettre fin au déploiement de l'IA, tout simplement parce que le CSE n'avait pas été consulté. Donc là aussi, tous les salariés devraient être extrêmement vigilants et s'assurer que dès lors qu'il y a un déploiement de l'intelligence artificielle dans leur entreprise, puisse y avoir des garde-fous et que les syndicats, les représentants du personnel puissent être consultés. Ça semble être une nécessité, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là aussi, il faut que les salariés prennent la main sur ces enjeux, parce que ça ne peut pas être que des enjeux aux mains du patronat, et juste pour qu'il y ait plus de profit. Parce que dans les mains des capitalistes, je ne veux pas caricaturer, mais l'intelligence artificielle serait là pour quoi ? Pour augmenter la compétitivité, pour augmenter la productivité et pour diminuer les coûts de main-d'œuvre. C'est une réalité très concrète et qui peut arriver extrêmement vite, c'est déjà le cas. Donc il faut vraiment qu'il y ait des garde-fous forts, que la puissance publique prenne la main sur ce sujet. D'ailleurs, malheureusement, si l'intelligence artificielle est dans les mains des géants de la tech et des géants du numérique, c'est parce qu'il y a une véritable défaillance de la puissance publique. il y a une défaillance de la recherche publique, et je ne parle pas des chercheurs, je parle de recherche de manière générale, parce qu'on coupe les budgets constamment de la recherche publique, et donc effectivement, là où il y a une faille, le privé s'engouffre avec des milliards accumulés pour développer une intelligence artificielle qui risque de nous aliéner demain.
Alors, on vient d'entendre un extrait nous, de LM Larouge, nous parlant...
C'était Alexandre Basquin, on ne l'a peut-être pas dit, c'était sénateur Parti communiste français.
Oui, donc, qui parlait de l'intelligence artificielle. Alors, plus que effectivement la question de l'intelligence artificielle de manière brute, ce qui nous vient un peu à l'esprit dans notre société, c'est qui détient l'intelligence artificielle et pourquoi. Alors, pourquoi aborder sous ce thème? Tout simplement parce que je pense qu'il y a un parallèle à faire avec la question des médias. 90% des médias sont aujourd'hui détenus par la haute bourgeoisie et donc sont utilisés pour manipuler les esprits. Et donc, voilà, ça, est-ce qu'on peut se poser ce même type de question avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est la même chose par rapport à la possession? Et quels intérêts ils trouvent ces possesseurs?
Alors, qui les possède, ça dépend de quelle partie de l'IA on parle. En général, dans les IA modernes, donc les équivalents de ChatGPT, on a deux grandes parties. La première, c'est la fabrication, donc vraiment ce qu'on appelle l'entraînement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très obscur. On ne sait pas trop comment ça marche. Il n'y a que les big tech qui maîtrisent ça. Donc c'est elles qui possèdent vraiment
c'est
cette partie de fabrication.
Les big tech,
c'est les grandes start-up américaines, les Google, les Microsoft et les Facebook. C'est elles qui entraînent des très gros modèles. Et il n'y a que elles qui ont l'infra, qui ont le capital nécessaire pour ça. On ne sait pas grand-chose de comment ça fonctionne. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est fait sur de la donnée qui est souvent volée. Donc c'est du film qui est récupéré en torrent, c'est de la donnée privée sans forcément l'accord des auteurs. On ne sait pas trop comment ça marche. Donc ça, c'est possédé par les big tech. En revanche, sur la partie utilisation, c'est un peu plus flou. Il y a encore des modèles
encore
qui sont...
plus flou, quoi.
C'est un peu plus flou. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop, ça dépend des fois. On a des modèles qui restent, on va dire, open source. Donc, vous pouvez le prendre vous-même. Une fois que Meta a créé son modèle, vous le téléchargez, ça marche sur votre ordinateur. Donc, ça appartient à Meta dans l'étape de fabrication, mais sur l'utilisation, ça appartient plus vraiment à grand monde. En revanche, étant donné qu'on ne maîtrise pas la fabrication, c'est possible qu'un jour, Meta dise, eh ben, écoutez, maintenant, je ne le laisse plus en open source, je ne le laisse plus au téléchargement de tout le monde, je décide que ça devient payant, je décide de changer comment ça fonctionne, et à ce moment-là, on sera coincé.
Une fois que tout le monde sera obligé de l'utiliser, parce qu'on aura pris l'habitude, tac, ça devient payant.
C'est ça, c'est quelque chose qui a été fait par une des big tech françaises, donc Mistral. Mistral a commencé en fait en proposant des modèles gratuits open source, donc les petits modèles, les Mistral, etc., les Mistral 7B. Et puis maintenant, ils commencent à avoir des modèles qui sont fermés, qui sont plus gros, qui sont proposés aux grosses entreprises. Et là, la plupart de la recherche qui est faite par Mistral, effectivement, n'est plus open source et appartient donc uniquement à Mistral.
Mais qui possède Mistral?
Qui possède Mistral? Alors, il y a eu un gros investissement de Xavier Niel, et puis il y a eu quelques investisseurs. Voilà, le patron de Free, le PDG qui possède l'actionnaire du Monde et de plein de médias, exactement pour
le gendre de Bernard Arnault.
Le gendre de Bernard Arnault, voilà. Donc, quelqu'un
donc là, vous êtes en train de nous citer des capitalistes classiques connus, quoi. Hein, voilà. Donc, eux s'intéressent beaucoup à l'IA, achètent cet outil-là. Mais quel intérêt y trouvent-ils?
Eh bien, en fait, dans le fonctionnement de l'IA, il y a un fonctionnement qui est typique de ce qu'on appelle l'économie de plateforme. Donc, ce qu'on voit sur Airbnb, ce qu'on voit sur Uber, ce qu'on voit sur Netflix, c'est-à-dire qu'il va y avoir un système de winner takes all. C'est-à-dire que celui qui va réussir à tenir le plus longtemps pourra dominer tout le marché et remporter l'intégralité du marché. Ce n'est pas des systèmes qui sont faits pour avoir plein de compétitions comme on peut l'avoir dans d'autres domaines. C'est un système qui est fait pour fonctionner avec un espèce de monopole.
Parce qu'à terme, ils vont se bouffer les uns les autres, quoi.
Et il n'y en aura qu'un qui survivra. Donc celui qui met le plus de capital et qui dure le plus longtemps, à la fin, il a le pactole. Mais il faut être celui qui gagne. Mais par contre, si vous gagnez, ça paye. Donc pour moi, c'est pour ça qu'ils investissent là-dedans. C'est qu'ils espèrent d'être celui qui fait tapis et qui remporte la mise. En revanche, il y en aura plein qui finiront le bec dans l'eau. Mais bon, ça c'est...
Quentin, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, ce que je voulais prendre comme exemple, c'est Amazon. Du coup, on a fêté les 25 ans d'Amazon. Donc le fait qu'on ait une grande...
Joyeux anniversaire.
Nous, on n'a pas fêté ça.
Non, on n'a pas fêté. Vous n'avez pas fêté, là, dis donc. Donc du coup, en fait, au début des années 2000, le fait qu'on ait un grand magasin en ligne où on peut tout trouver, c'était génial. On trouvait ça vraiment trop bien. Et puis, au fur et à mesure, ça grignotait les commerces de proximité, les commerces de détail, d'objets précis. Et ça a aussi grignoté les autres magasins en ligne qui avait toujours des offres plus intéressantes sur Amazon. Mais en fait, quand on analyse les comptes, pendant 14 ans, Amazon, en fait, pendant 7 ans, ils ont creusé un trou de déficit. Et puis les 7 années d'après, ils ont gagné à peu près assez d'argent pour remplir ce trou. Donc on parle de milliards de dollars qui ont été investis en pure perte au départ et qui après ont été rattrapés par quelques milliards de gains. Mais à l'échelle d'Amazon, c'est pas beaucoup. Et en fait, le service vente, donc la partie marketplace, là où vous cliquez pour acheter vos trucs, ça n'est rentable que depuis les années 2020 à peu près. En fait, c'est le Covid qui a donné un coup de boost. Mais sinon, Amazon ne vivait que par sa location de serveur. C'était son service rentable et son service de vente aux particuliers n'était pas rentable. Donc c'est-à-dire qu'on a détruit le commerce de proximité, le commerce de détail et toute une partie des boutiques en ligne d'Internet pour permettre à Amazon de s'installer comme étant l'unique incontournable monopole, alors qu'Amazon ne gagnait pas d'argent. Et là, a priori, sur les IA, on est parti sur la même lignée. C'est-à-dire qu'ils vont tous perdre de l'argent, des milliards de dollars, parce que là, on parle d'ingénieurs qui sont payés un salaire à 6 chiffres, on parle de factures d'électricité à 7 chiffres, on parle de location de serveurs à 7 ou 8 chiffres. Mmh. Et à la fin de ça, bah, le but, c'est juste qu'il y en ait winner takes it all, le gagnant remporte toute la mise.
Je suis encore en train de compter les chiffres pour voir combien ça fait.
C'est vrai,
beaucoup de chiffres.
Des trucs à 7, 8.
Ça fait beaucoup. Il y a Sam Altman qui a annoncé récemment que Facebook avait essayé de recruter ses ingénieurs pour des salaires à 100 millions par an.
Ah oui, c'est tombé il y a deux jours là. Oui, ouais, on a fait.
Donc, c'est des.
À 100 millions, millions par an.
De voilà. Dollars.
Alors, c'est un chiffre à combien de chiffres ça?
Là, ça fait plus.
C'est pas mal. Hein.
Mais c'est des salaires de footballeurs en fait. Hein.
Mais il y a quand même cette question que je me pose, parce que là, on dit, oui, mais pourquoi est-ce que les capitalistes investissent dans l'IA, alors qu'Amit, tu nous as répondu, bah, c'est parce qu'ils espèrent être le dernier à remporter le tapis. Ça, d'accord. Mais pour faire quoi? Est-ce que, ils imaginent que ça là va, on imagine, forcément, s'ils le font, c'est parce qu'ils envisagent de gagner de l'argent là-dessus, à terme. Mais pas forcément d'une façon commerciale, peut-être que c'est parce qu'ils vont pouvoir transformer, restructurer toute la façon de travailler quoi, dans leurs différentes boîtes.
Alors le doux rêve des capitalistes de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle généraliste. Donc une IA qui est capable de tout faire, un petit peu comme un humain, vous lui posez des questions, elle n'a pas besoin d'être spécialisée dans la réponse à du travail d'infirmière.
C'est un peu
la
modèle de ChatGPT.
Alors oui, mais ChatGPT aujourd'hui, il n'est pas aussi compétent qu'un humain. Il y a plein de choses que vous pouvez lui demander, il ne sera pas capable de le faire.
Et ça dépend quel humain, moi par exemple.
Ça dépend quel... Mais en vrai, ChatGPT a encore beaucoup de problèmes, notamment sur la véracité de ce qu'il dit. ChatGPT, pour rappel, n'est pas entraîné pour être correct sur ce qu'il dit. Il est entraîné pour parler bien et faire croire que c'est correct, mais il n'est pas correct. Donc l'objectif derrière, c'est d'avoir une intelligence artificielle généraliste qui pourra être un espèce de super travailleur qui remplace la moitié de la planète. C'est un petit peu l'objectif qui est poursuivi par les capitalistes derrière, qui pourra tout remplacer, qui pourra tout faire. En fait, ce sera l'espèce de grosse machine qui fait tourner toute l'économie de la planète. C'est the objectif qui est poursuivi pour ces personnes, pour moi.
J'ai envie de revenir un petit peu en arrière sur nos questions, parce que on n'était pas hyper sûr de votre réponse là, Camille. Alexandre Basquin, dans l'entretien, dans le passage qu'on a entendu avant, disait qu'il y avait 80% des emplois non qualifiés qui pourraient être menacés. C'est un peu ce que vous dites aussi, mais vous disiez tout à l'heure que c'était pas vraiment le cas et que c'était des effets de pub finalement quand on disait que des emplois étaient remplacés par des IA, mais en fait c'était une simple délocalisation. Alors dans les faits, c'est un risque, c'est déjà avéré ou quoi?
C'est un risque, mais pour l'instant, en fait, dans le domaine de la recherche du monde du travail, il n'y a pas de certitude. Il y a eu quelques études qui sont sorties par des banques, une étude qui a été sortie par l'OCDE, qui ont l'air de montrer qu'on va avoir de grosses suppressions d'emplois, mais on en a aussi plein qui vont dans le sens inverse. Donc il faut être méfiant, parce qu'il y a un risque, donc il faut s'en occuper. C'est un risque qui est beaucoup utilisé à mauvais escient par certains capitalistes de l'IA, comme Sam Altman, comme Sacha Nachetella, etc. Mais en revanche, on sait qu'on va avoir des suppressions d'emplois sur certains domaines, mais on ne sait pas encore à quelle hauteur, et c'est ça le risque qu'on a.
Est-ce que c'est une révolution industrielle comme l'a été celle de la machine à vapeur, et puis plus tard celle du moteur à essence?
C'est compliqué à dire, parce que ChatGPT, pour rappel, ça date de, il me semble, novembre 2022, quelque chose comme ça, donc c'est pas très vieux. Donc pour dire que si c'est une révolution industrielle, pour l'instant, c'est quelque chose de gros. Est-ce que c'est aussi gros que la machine à vapeur? Je pense que le temps le dira.
Et en fait, dans ce que vous racontez, justement, pour revenir, y compris au siècle dernier, faire la même, essayer une comparaison, est-ce qu'il n'y a pas un combat entre les différents producteurs d'intelligence artificielle pour arriver à une monopolisation du marché.
Ouais, puis la Chine, c'est un modèle différent.
Alors, il y a un combat effectivement entre les différentes entreprises, donc elles essaient chacun d'avoir le meilleur système, de cramer le plus de capital possible et de réussir à rester en vie, effectivement. Pour l'instant, il n'y a pas de gagnant clair. Pour l'instant, c'est tout le monde crame du capital et on ne sait pas trop comment ça va se passer d'ici 2 ans, 3 ans, quand les factures vont commencer à tomber. On a OpenAI qui a une petite avancée, mais pas bien plus. En revanche, on ne sait pas trop comment ça va se passer, effectivement, quand il n'y aura plus de capital à investir ou quand les investisseurs vont demander à avoir un retour sur leur investissement. C'est possible que les centres de données qui ont été construits à grands coûts partout dans le monde deviennent un petit peu vides. C'est possible que tous les moyens qu'on a mis pour la rénovation de la grille électrique, pour le détournement de certaines sources d'eau pour alimenter les centres de données, ça devienne des choses inutiles qu'on a fait, puisque ben, on aura une espèce de crash ou d'explosion d'une bulle financière de l'IA. C'est possible.
On se retrouve d'ici quelques minutes, juste après, bah justement, un morceau de musique fabriqué par une IA.
Oh,
il s'agit ici, d'imiter, alors un rappeur, c'est vrai qu'on ne passe pas d'habitude dans cette émission, il s'agit d'un rappeur qui vend énormément de disques, SCH, sa voix a été donnée à une IA pour fabriquer une chanson bien connue.
Qui est mieux que l'original.
Une souris verte, qui courait dans l'herbe.
C'est à toi de me le dire, Jean-Jacques. Tu préfères cette version ?
Je la montre à ces messieurs.
Ça dure que 30 secondes, hein, rassurez-vous.
Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud.
On passe au rouge, chaque lundi, de 19h à 20h, sur Radio Campus en 6,6.
Ah, on aime bien se moquer des IO, hein, quand même. Mais enfin bon, en même temps, ça affiche un peu la trouille. Quelle confiance on peut avoir dans l'IA ? Ça dit la vérité, une IA ?
C'est pas fait pour. Ça peut dire la vérité, mais c'est pas pour ça que ça a été créé. Ça a été créé pour que chaque mot qui sorte par l'intelligence artificielle soit le mot le plus probable par rapport au mot d'avant. C'est grosso modo comme ça que ça a entraîné. Donc le but du jeu, c'est d'avoir l'air de parler comme un humain, c'est d'avoir l'air de reproduire le contenu sur lequel il a entraîné. En revanche, il n'est pas fait pour dire la vérité. Quand vous parlez à ChatGPT, vous lui demandez par exemple de parler de légal, de documents légaux, etc., ou d'un jugement au tribunal, il est tout à fait capable d'inventer des jugements qui n'existaient pas, il est capable d'inventer des jurisprudences qui n'existent pas, et il suffit de convaincre un petit peu que vous avez vraiment besoin que votre argument soit vrai, pour qu'il devienne d'accord avec vous que votre argument soit vrai.
On écoute un dernier extrait de LM Larouge, là c'est à propos de l'expérimentation, l'esprit critique et le dialogue social.
Je pense qu'on a un peu trop tendance à se faire peur et à se faire prendre au piège du marketing du mot intelligence artificielle. Et donc la première recommandation du rapport de la commission IA, et le livre est disponible ici, la toute première recommandation, c'est formation, expérimentation, dialogue social. Alors formation, ça veut dire il faut essayer de comprendre, ça veut dire venir aussi à des tables rondes comme celle-ci. Expérimentation, ça veut dire essayer d'utiliser ces modèles. Et ça permet d'en voir les limites. L'exemple dont on parlait justement avec Anaïs, c'est que c'est très bien de dire aux élèves qui de toute façon vont utiliser des modèles à la ChatGPT ou autre, c'est faites votre dissertation en l'utilisant et après on en parle en classe. Et le « on en parle en classe », c'est là qu'on suscite des discussions sur c'est quoi l'esprit critique, c'est quoi les limites, pourquoi est-ce qu'effectivement toutes les rédactions se ressemblent, ça c'est le côté homogénéisation. Pourquoi est-ce qu'en fait il y a des choses qui sortent qui sont juste fausses, hein, donc ça c'est la limite sur le fait que c'est pas quelque chose qui donne de la vérité, ça donne quelque chose de statistiquement plausible, souvent c'est vrai mais des fois ça l'est pas. Donc le côté expérimenter et voir les limites, c'est très important. Et le dialogue social, je vous rejoins complètement. Vraiment ça m'a frappé quand on a préparé ce rapport de la commission IA, on a fait plein d'auditions. En fait les syndicats sont beaucoup plus prêt, enfin pas personne n'est complètement prêt, mais se préoccupe beaucoup plus du sujet que le patronat. Et le patronat se trouve un peu enfermé dans je ne sais pas, enfin, nous ne savons pas exactement ce que ça va donner, donc nous ne savons pas quoi dire à nos salariés, et donc nous ne disons rien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. Et donc, on a très fortement poussé pour du dialogue social, ce qui a été... Tout le monde n'était pas d'accord pour qu'on le mette dans le rapport, mais on l'a mis. Il faut parler de ces sujets-là. L'intelligence artificielle va remplacer certains métiers, mais en fait, c'est peut-être plutôt 5%. Il y en a peut-être 5% qui vont être créés, qu'on ne connaît pas encore vraiment. Mais il y a 70% des métiers qui changent et dont les tâches sont impactées. Et donc, ça veut dire se former à la manière de les faire de manière différente et également se former à la manière dont ça change les métiers et la répartition des tâches entre les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les patients, qui se retrouvent à chacun faire des choses qui étaient un peu avant dans la répartition des rôles des autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'encourage. Et peut-être une dernière chose, moi, je compare souvent l'intelligence artificielle à l'arrivée de PowerPoint. Alors, ça fait moins peur. Mais en fait, il y a pas mal de similarités. On s'est dit, PowerPoint arrive, tous les gens qui font des présentations vont perdre leur travail. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup plus de présentations PowerPoint. Et donc, il y a beaucoup plus de contenu pour répondre à un commentaire qui a été fait. Et on travaille un peu différemment. Et on n'est pas inquiet du fait que PowerPoint va remplacer notre intelligence.
Elle, c'est Anne Bouvreau. Elle est dirigeante d'entreprise, ingénieure et chercheuse en IA française. Et elle était à LM La Rouge, organisée par des communistes.
Oui, bien, elle était surtout à une grande rencontre internationale à Paris en 2024, me semble, donc il y a très peu de temps, où Narendra Modi était présent, il y avait Ursula von der Leyen, c'est-à-dire l'idée c'était de faire une synergie entre la France, l'Europe, l'Inde, pour créer un truc commun, quoi. Donc on a là, dans ce qu'on entend, disons, le point de vue de la bourgeoisie sur ces questions-là, et puis ce que nous dit la bourgeoisie, c'est que ce sera indolore. Il y a des métiers qui changent, il y en a qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont apparaître, donc tout va bien se passer. Est-ce que c'est votre point de vue, Camille, si on revient sur cette thématique-là ?
Alors, indolore, je ne pense pas. On va reprendre l'exemple des travailleurs de Roubaix du textile. Je pense que l'arrivée des métiers jacquard n'a pas été indolore. En revanche, il l'a été sûrement pour les directeurs des entreprises qui l'ont utilisé. Je pense que les gens qui habitent à Croix ont bien plus profité de ces arrivées que les gens qui habitent à Roubaix. Donc, je pense que comme tous les moyens de production, comme tous les progrès technologiques, quand c'est utilisé à des fins pour ne pas améliorer les conditions de travail, pour ne pas être indolore, justement, ce n'est pas indolore derrière. Mmh. C'est implémenté par votre patron et pas pour votre bien, ça ne nous fera pas du bien.
Bon, alors justement, là, on est dans le cœur de ce qu'on a envie de creuser avec Quentin et Camille, c'est-à-dire dans quelles conditions une IA peut-elle être progressiste ? Enfin, la question, c'est dans quelles conditions les progrès techniques peuvent-ils aller dans le bon sens, Quentin ?
Eh bien, en fait, c'est toute la question du cadre. Là, l'intervenante parlait de dialogue social. C'est vrai que ce n'était pas dans l'extrait que j'ai choisi, mais il y avait la précision aussi de dire qu'il y a pas mal de syndicats qui sont prêts, on le voit avec Solidaires aujourd'hui, qui sont prêts à aborder cette question-là et à la prendre de front. Mais de ce qu'on comprend, il y a assez peu de patrons qui sortent juste du discours sur l'efficacité. Et donc, du coup, il y a peut-être une voie de se saisir des outils, d'expliquer les enjeux, de démontrer une expertise, alors encore une fois via les syndicats a priori, pour dire qu'on sait de quoi on parle, on sait comment on peut les utiliser et on sait aussi les limites et les dérives à l'avance. Donc pour reprendre l'image que je donnais au début, on va pouvoir très vite savoir faire la différence entre une situation qui va être bénéfique aux employés et une situation qui va être néfaste à leurs conditions de travail. Donc je pense que le premier enjeu, c'est de s'informer un peu ce qu'on fait, ici, et de savoir nommer les enjeux et ce qu'on a à y gagner et à y perdre.
C'est marrant parce qu'en fait, tu es d'accord avec Anne Bouvreau qui disait que finalement, les patrons étaient moins conscients de ce qui se passait que les syndicats. Camille, toi qui es syndicaliste à Sud, est-ce que tu as cette impression ?
Nous, à Solidaires Informatique, on travaille dans l'informatique vraiment tous les jours. On a les mains dans le cambouis, donc l'IA, on voit ce que c'est, on la voit passer, on l'utilise. Parfois, on en développe, donc on connaît très bien le sujet. En revanche, dans les hautes sphères, c'est vrai qu'il y a beaucoup de « il faut faire de l'IA, il faut faire de l'IA, il faut faire de l'IA ». Et quand vous assistez à des conférences de personnes qui ont une vision un petit peu censée être stratégique de ce qu'on fait avec l'IA, souvent c'est « il faut faire de l'IA parce que tout le monde en fait et que c'est la voie à suivre ». Donc je pense qu'effectivement, au niveau du patronat, il n'y a pas une grande vision en dehors de suivre la hype parce que tout le monde en fait, et bien entendu dans les personnes qui l'utilisent, dans les personnes qui sont dans le travail qui est censé être impacté par l'IA, là on voit vraiment ce que ça va faire, oui, bien sûr.
Alors, je vais employer un gros mot, la baisse tendancielle du taux de profit. Est-ce que l'intelligence artificielle, à partir du moment où elle risque de mettre un grand nombre de travailleurs au chômage, ne risque pas d'encourager en fait cette tendance du capitalisme, à savoir comme il y a moins de chômeurs, il y a moins de gens au travail, ils touchent moins d'argent, et donc même s'il y a un gain de productivité, il ne sera pas vendu. Donc ça sera une perte pour le patronat.
Question alors, d'économiste. Hein.
Ouais, vaste question, je ne sais pas.
Est-ce que l'IA va précipiter la fin du capitalisme?
Ah, si seulement les outils du capitalisme pouvaient se tirer une balle dans le pied.
Mais je veux dire, en grossissant ses défauts et en accélérant un petit peu les choses, quoi. C'est quelque chose qu'on peut peut-être imaginer. Une autre question qu'on se posait aussi, c'est alors certains d'entre nous sont des lecteurs de Isaac Asimov et on sait que il a beaucoup travaillé sur ces questions de les lois de la robotique. D'abord, j'ai une première question. Pourquoi est-ce que la première loi de la robotique d'Asimov, c'est-à-dire que un robot ne peut pas faire du mal à un être humain ou laisser faire du mal à un être humain par son inaction, n'est-elle pas appliquée aujourd'hui à l'ensemble de tout ce qui est robotique dans le monde? Ça semblerait une évidence, non?
Alors, ça éviterait les guerres.
Ça éviterait les drones tueurs, en tout cas, oui.
Ça éviterait les drones, mais du coup, effectivement, les personnes qui font les drones n'ont pas d'intérêt à implémenter cette loi. Donc on pourrait envisager peut-être qu'il y ait un espèce de, on va dire, de gouvernement mondial, d'un espèce d'ONU qui impose ces trois lois d'Asimov dans toutes les IA. Pourquoi pas? En revanche, les personnes qui ont lu Asimov dans le cycle des robots, c'est trois, quatre romans, je ne me rappelle plus, qui expliquent comment est-ce que les robots contournent ces trois lois. C'est toute l'histoire.
Oui.
Et donc c'est bien ça la conclusion, en fait. C'est même avec trois lois simples comme ça à respecter, on a des robots qui sont capables de faire n'importe quoi, et au final d'endommager un petit peu le mode de vie des humains et d'avoir un impact.
N'importe quoi, ils vont chercher l'inconscient hein, aussi des gens pour savoir ce qui est bon pour eux malgré eux. Hein. Parfois c'est ce genre de circonvolution qu'on peut lire dans Asimov. Jean-Jacques ?
Dernière question peut-être à Quentin et Camille. Une intelligence artificielle, un progrès technique, ça peut être utile à l'humanité. Alors on imagine que ça devrait être si on était débarrassé du capitalisme, mais ça serait quoi alors? Imaginons un petit peu, faisons un peu d'anticipation puisqu'on parle d'Asimov. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait nous apporter quoi?
Alors on va mordre un peu sur ma chronique juste après. En fait, la recherche, déjà, c'est une réponse évidente, c'est que ces systèmes informatiques qui existent depuis les années 50, hein, faut pas oublier, le principe qu'on utilise aujourd'hui dans les IA, c'est date de 56-58. Et donc, du coup, ça peut être utilisé dans la recherche pour découvrir de nouveaux médicaments, pour faire des analyses plus rapides dans le cadre de recherches, Ah, ça a été utilisé en archéologie, ça a été utilisé pour démontrer des sites, ça a été utilisé pour déconner le génome humain. Mmh. En fait, il y a plein d'applications de ces systèmes-là, déjà, par exemple, dans la recherche. Mais du coup, il faut financer la recherche. Et voilà, on en revient à des paradigmes de capitalistes, de dire, bah, en fait, il faut que la recherche rapporte de l'argent pour qu'elle soit financée. Et voilà à quoi on en retourne, quoi.
On passe au rouge. Retrouvez-nous pendant 2 mois sur campuslille.com.
Et nous allons terminer cette émission consacrée à l'IA et l'emploi avec Système d'exploitation, la chronique de Quentin. Et on t'écoute, Quentin.
Bonjour le monde, on reprend, ça faisait un moment.
Oui.
Parmi les choses que j'ai lues pour préparer cette émission, je vais vous citer du David Autor, un économiste du MIT. L'histoire et les études démontrent que les technologies développées par les sociétés et la manière dont elles les utilisent sont avant tout déterminées par les institutions dans lesquelles elles ont été créées. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est pas la technologie en elle-même qui définit ce qu'on en fait, c'est la société dans laquelle on est en train de la créer. Donc, on est en train de développer une IA générative dans le capitalisme tardif. Ça risque de pas être du joli. Alors, faisons un pas de côté pour imaginer le développement d'une telle technologie dans un autre cadre. Un cadre éco-socialiste. Là, les questions qui se posent sont tout autres. Contrairement à Sam Altman, dont on parlait tout à l'heure, qui n'a en tête que les milliards de dollars qu'il peut gagner, des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur une IA générative éco-socialiste auraient deux objectifs finaux en tête, le progrès social et la baisse de l'impact des sociétés humaines sur leur environnement. Et là, il se pose des questions très différentes. Est-ce que ça a du sens de rouvrir des centrales nucléaires et d'installer des centaines de turbines à gaz pour faire tourner la dernière version de Grok, une IA qui ne sait même pas expliquer ce qu'est la Shoah, et dont Elon Musk...
C'est l'IA de droite de Musk.
C'est l'IA de Musk. Et Musk a dit lui-même récemment que son IA n'était pas assez de droite, qu'il allait faire encore pire. Et du coup, autre question, est-ce que ça a du sens d'inciter des milliers d'entreprises dans le monde à adopter des outils sous prétexte qu'ils rendront des services moins onéreux que leurs employés ? Donc l'objectif final, c'est pas de réduire le temps de travail ou d'augmenter la qualité du service, mais juste d'augmenter les profits. Et vous savez, le meilleur, c'est que dans une société éco-socialiste, on pourrait tenter de répondre à ces questions de façon démocratique. Un truc de fou. Car en fait, tout ce qui touche, tout ce qui peut influencer l'impact qu'on a sur les écosystèmes et le travail, bah, c'est un impératif de pouvoir d'avoir un pouvoir de décision dessus. C'est pas les autres qui décident, c'est pas ceux qui possèdent le capital qui doivent décider de l'évolution, de l'impact qu'on a sur notre environnement ou de nos conditions de travail. Donc du coup, pour pouvoir le décider ensemble, il faudrait qu'on ait accès à de l'information. Ça veut dire qu'il faudrait vulgariser, informer, résumer des informations disponibles pour éclairer la décision des citoyens. Et c'est une chose que l'IA fait pas trop mal. Donc en fait, on reboucle. Une IA, ça pourrait être utilisé pour former des citoyens. On peut trouver un exemple de projet socialiste lié à l'informatique. Je vais faire un petit détour par le Chili entre 71 et 73. Si je dois vous résumer au lance-pierre, on parle du président socialiste Salvador Allende qui est arrivé au pouvoir en 70 malgré une forte opposition des États-Unis. Il commence une politique de nationalisation de son économie très centrée sur l'extraction dans le contexte où le Parlement lui est hostile et la CIA finance à coups de millions des grèves des travailleurs dans le pays. Et en fait, malgré toutes ces difficultés, il promeut une gestion par l'État, mais accessible aux citoyens de la politique économique du pays, avec des outils informatiques. C'est un projet qui s'appelle le CyberSyn.
Déjà à l'époque, des outils informatiques.
Donc du coup, l'ambition, c'est de récolter les informations quotidiennes de production et de besoins dans le pays. Et on parle, comme on le dit, d'une époque où Internet n'existe pas et le Minitel n'existe pas. Et de mettre ces informations à dispo dans une salle d'opération qui pourrait être occupée par des citoyens, pas forcément par des ministres, pas forcément par des députés, et que ces citoyens pourraient, avec cet effort de transparence, avoir le pouvoir de guider la production du pays pour s'assurer qu'elle répond aux besoins. Il s'agissait alors de démontrer qu'on pouvait remplacer la gestion capitaliste des moyens de production par une gestion socialiste assistée par la technologie.
Il a mal fini.
Et ça a mal fini. Le projet ne sera malheureusement pas mené à son terme car le gouvernement d'Allende subira un coup d'État en 73 pour laisser la place à la dictature meurtrière de Pinochet, soutenue par les US. Alors, est-ce que tout est fini ? Pas vraiment. Lorsqu'on cherche une voie vers le progrès social à travers la technologie, on se rend compte qu'il existe de nombreuses alternatives. Les logiciels libres en sont par exemple une brique importante et on a un déjà là, comme on dit. Il faut continuer de dénoncer les dérives du technocapitalisme et insister sur les outils préférables qui ne s'en prennent pas à nos conditions de vie pour s'assurer de faire reculer nos systèmes d'exploitation.
J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie.
On aura peut-être reconnu les suppliques du superordinateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, la première IA en fait, hein, dont on a entendu parler pour ce qui me concerne. Donc, voilà, c'était On passe au rouge, une émission réalisée brillamment par Quentin. Merci à Camille Dupont de Solidaire Informatique. Merci Camille. On vous a entendu aussi il y a deux mois dans l'émission Angle d'attaque sur Radio Campus pour parler IA et médias. Fabienne, quelques annonces, là tu as une petite minute.
Allez voir, à mon avis, des manifestations sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Hein. Donc, allez voir surtout l'agenda de la FPS qui vous tiendra au courant de toute nouvelle mobilisation en temps et en heure.
Salut Jean-Jacques, salut Fabienne, oui, salut,
salut
Seb.
Salut.
À lundi 19h, ça sera la dernière de On passe au rouge pour spéciale. Cette saison, une spéciale.
On vous attend à l'écoute.
Voilà, mais ça ne sera pas une surprise parce qu'on fait comme les années précédentes, on a encore invité la chorale Les Joyeuses Mutines et Joyeux Mutins, la chorale qui chante juste des chansons engagées.
Je le sens se vider. cerveau se vide. J'en suis certain, je le sens.